Alors, bonjour, bonsoir, bon matin et bienvenue à Yoga Partout International. Aujourd'hui, Baudouin le Grand et le yoga thérapeutique, ainsi que le Qigong. Bonjour, bonsoir, bon matin, Baudouin.
Bonsoir, pas de problème, je suis à l'écoute.
Merci d'avoir écouté, d'avoir accepté et de participer à cette émission de Web Radio Internationale sur Yoga Partout. Baudouin, je vais brièvement vous présenter et par la suite, tout le monde a bien hâte de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître.
Oui, je voudrais vous interrompre une seconde parce que je voulais dire, et c'est important pour moi, que c'était un honneur d'être interviewé par vous, qui a fait tellement pour le yoga, et vous avez repris le flambeau d'un homme que j'estimais beaucoup et que j'admirais beaucoup, qui était Jean Herbert. Jean Herbert était passionné de l'Inde, il a fait tellement pour le yoga, et vous avez repris le flambeau. Et pour moi, c'est un honneur d'être interviewé par vous, je tenais à le dire.
Merci beaucoup. C'est tout un honneur aussi pour moi de faire cette mention de Jean Herbert, qui effectivement est un grand communicateur qui a fait connaître le yoga en français partout dans le monde aussi, là, à sa façon.
Exactement, exactement.
Alors, Baudouin, vous êtes vraiment un homme à tout faire, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour vous présenter, bien, je crois que j'aurais besoin quand même d'une bonne dizaine de minutes facilement. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, ce que je vous suggère, Baudouin Legrand, professeur diplômé de l'Institut international d'André Van Lisbeth et de l'Institut international de Babacar Kane. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Sans aucun problème. Alors, je suis belge, un bon belge. Mon père était wallon, ma mère était flamande, vraiment belge. J'ai pratiqué la première partie, donc j'ai fait d'abord mes humanités, non, d'abord mes primaires à l'école des frères pour voir un petit peu la formation. Et puis après, j'ai fait mes humanités à Marche-en-Famenne chez les franciscains. Et puis après, j'étais à Namur chez les jésuites. Vous voyez, j'ai pris les franciscains puis les jésuites pour 2 années de candidature en philosophie et lettres. Les plus belles années que j'ai eues en études, c'était ces deux-là. Et puis j'ai eu 3 années à Louvain, à l'université de Louvain, pour le doctorat en droit. Et exactement vers, je vais vous donner des dates exactes, c'est important. Doit être aux environs de mon diplôme que j'ai dû avoir donc en 1957, puisque 57 environ, j'ai eu mon diplôme donc d'humanité, et puis j'ai fait mes 5 années donc à l'université, et puis j'ai pratiqué le droit, j'étais avocat, et j'ai pratiqué le yoga, vous voyez que je me trompe avec le yoga, le métier d'avocat, pratiquement 60 ans. Et c'est à 60 ans que j'ai eu une seconde vie, qui est le yoga, grâce à André Van Lisbeth. Et ça, je raconterai grâce à un oncle qui m'avait initié au yoga, mais j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Donc, en réalité, j'ai eu une formation très juridique d'abord. Je n'aurais jamais, jamais, jamais cru qu'un jour j'enseignerais le yoga. Absolument pas. La vie réserve des surprises. Et c'est à partir de 60 ans que cette vie beaucoup plus, je dirais, pour moi, beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressante, la seconde partie de ma vie que je consacre au yoga. Voilà un petit peu, si vous voulez en résumer, mes formations que j'ai eues. Alors maintenant, si je dois parler, je ne sais pas si je dois en parler maintenant, comment j'ai découvert donc André Van Lisbeth, c'est aussi circonstance assez extraordinaire. Comment j'ai rencontré Babacar, comment J'ai finalement désiré aussi d'apprendre le Qigong. Ça, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois le dire ou pas.
Bon, ben, en fait, vous venez juste de décrire à nos auditeurs, nos auditrices, les sujets que nous allons aborder, parce que ces rencontres ont façonné votre existence, comme vous l'avez mentionné. Donc, ce que je vais me permettre de faire, d'abord, justement, pour ma prochaine question, à savoir comment vous en êtes venu à vous lier d'amitié, une amitié très, très intime, là, proche avec André Van Lisbeth et ainsi aussi avec Babacar Kane, le grand yogi de yoga, du yoga égyptien, André Van Lisbeth, le grand yogi qui a écrit de nombreux ouvrages, ce serait d'inviter les gens à découvrir votre page sur Yoga Partout et aussi visiter les et être informé au sujet des ateliers, des stages que vous offrez. Donc, avec votre permission, je vais inviter les auditeurs et les auditrices à découvrir l'espace web qui a été fabriqué pour vous sur YouTube, ainsi que LinkedIn. Et si Monsieur Beaudoin, je manque quelque chose, s'il y a une erreur à corriger, n'hésitez pas à le laisser savoir. Donc, pour les personnes qui veulent en même temps écouter soit sur iTunes, cette émission est diffusée gratuitement sur iTunes, cherchez Yoga Partout. Elle est diffusée partout dans le monde, dans 55 pays francophones et des milliers d'auditeurs, auditrices en différé surtout, en archive, écoute Yoga Partout international. Donc, pour découvrir Beaudoin, vous allez sur yogapartout.com et vous tapez Beaudoin le Grand. Donc, je vais épeler et si je me trompe, Monsieur Beaudoin, vous me corrigerez, d'accord?
Oui, tout à fait.
D'accord. Ah, donc, sur l'engin de recherche, vous écrivez Beaudoin, B-A-U-D-O-I-N. Donc, B comme O-U-I-N. Bonjour.
O-U-I-N.
D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est B-A-U-O-U-I-N.
Et si vous utilisez... B-A-U-D-O-U-I-N. Beaudoin, en fait, comme le roi. Comme le roi des Belges, Beaudoin. O-U-I-N,
voilà.
Après le D.
Et voilà. Et le grand. Non. Ben c'est important là. Les engins de recherche, on veut pas.
Ah oui. B comme bébé, A comme André, U comme Ursule, D comme Désiré, O comme Oscar, U comme Ursule, I comme Isidore, N comme Norbert. Beaudoin.
Bon. Alors nous allons corriger sur Yoga Partout parce que vous l'aviez mentionné et je croyais que cette erreur avait été corrigée alors qu'elle ne l'est pas. Donc, merci beaucoup. Et sur LinkedIn, vous avez une page LinkedIn qui invite les gens à découvrir les stages que vous offrez. Nous reviendrons aussi un peu plus tard. Stage en Belgique, stage au Maroc et naturellement en Égypte. Si je me trompe, est-ce que je me suis trompé ou c'est à peu près parcours de nos
en
discussions?
En fait, si les gens veulent me contacter, le plus simple, c'est de me contacter à mon adresse qui est d'une simplicité, adresse email, et là on peut évidemment nouer les contacts. C'est l'adresse yogi en minuscule YOG comme Georges I @ proximus, c'est P comme papa, R comme Roger, O comme Oscar, X comme Xavier, I comme Isidore, M comme Michel, U comme Ursule, S comme Serge, .be, tout simplement, yogi@proximus.be. Et là, directement, les contacts peuvent, évidemment, commencer à ce moment-là. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours disponible quand on me le demande.
Merci. Effectivement, vous êtes très disponible et en même temps, vous êtes très occupé. Vous voyagez beaucoup. Nous y reviendrons d'abord et avant tout. Présentation de comment vous en êtes venu au yoga, comment décrivez-nous un peu votre parcours vers cette voie du yoga, s'il vous plaît.
Eh bien, aucun problème. C'est vrai que c'est toute une aventure. Alors, il faut remonter à mes 20 ans. J'avais 20 ans, je venais d'avoir mon diplôme de rhétoricien, on appelait ça la rhétorique, quand on avait terminé ses humanités. Et je me rappelais toujours, j'avais un oncle qui était passionné de toute de philosophie, notamment la philosophie indienne, et il était procureur du roi, donc il avait une profession tout à fait juridique. Et un jour, il m'avait invité avec un ami à nous initier au yoga. À 20 ans, on est allé, je vous rappellerai toujours, j'étais dans un grand building au 4e étage. On est allé dans cette pièce avec mon ami et nous avons pendant une heure pratiqué ces exercices très, très mystérieux pour nous. Et je dois avouer que nous avions été à cette invitation plus par curiosité, évidemment c'est surtout par curiosité. Mais je crois et j'en suis même sûr, que mon oncle, qui s'appelait Georges Legrand, m'avait déjà transmis ce virus du yoga que je n'ai pas perdu, puisque un jour, je ne savais pas à ce moment-là que ce serait ma seconde vie. Donc voilà le début. Alors, donc, après avoir suivi cette initiation, mon oncle m'avait parlé d'André Van Lisbeth. André Van Lisbeth, qu'il faut savoir, après la guerre, a été un des premiers qui a, je dirais, fait découvrir le yoga en Europe. Et je me suis abonné, je me rappellerai toujours, c'était aux environs, de l'année, je reprends, je regarde un petit peu parce que ça remonte très loin, je les ai ici, et bon, ça remonte à exactement 1964-63, et je me suis abonné à la revue Yoga, et je suis resté abonné à cette revue jusqu'à la mort pratiquement de Van Lisbeth, parce qu'il a continué à écrire pratiquement jusqu'à encore quelques mois avant son décès. Il rédigeait encore sa revue, absolument extraordinaire. Alors, après, j'ai pratiqué mon métier d'avocat et j'exerçais, si j'allais suivre quelques cours de yoga dans les écoles comme on faisait en province, c'est-à-dire que de septembre au mois de mai, eh bien, les écoles organisaient un cours de yoga. Je me rappelle qu'on allait dans une salle et avait sur une estrade ce professeur, je me rappellerai toujours, on aurait dit Tarzan avec des grands longs cheveux, maigre comme un clou, et il nous montrait des postures qu'on devait réaliser, mais des postures extravagantes, et je dirais très honnêtement, ces postures, il nous demandait de les faire comme si nous avions tous le même dos. J'étais déjà un peu étonné, parce que c'est vrai que faire des postures parfois un peu compliquées, il faut quand même tenir compte de la morphologie de chacun. Et très souvent, je sortais de ces cours plus meurtri qu'au début des cours. Ça n'empêche que je continuais, en pratiquant occasionnellement le yoga, je continuais à lire. Pratiquement, c'était près de mon lit, je lisais plusieurs fois par semaine les petites brochures d'André Van Lisbeth, ça me passionnait. Et puis, j'ai pratiqué mon métier d'avocat, et quand je suis arrivé, voyez, on remonte très vite les années, à 57-58 ans, j'ai eu de gros problèmes de santé, surtout du dos. Et je me rappelle que, en plus de ça, en plus des problèmes de dos, j'avais un gros problème de stress. Et je me rappelle que le docteur m'avait prescrit, vous imaginez, du Prozac et du Xana. Du Prozac et du Xana. Bon, épouvantable. Et alors, j'avais été faire un IRM à Montgodin, une grande université en Belgique. Et vous savez que quand on passe un IRM, on demande aux médecins qui pratiquent cet examen si on peut rester près de la porte pour avoir les premiers résultats. Je me rappelle toujours de cela. Et je me suis retrouvé près de la porte après l'examen avec un vieux monsieur, bien plus âgé que moi. Et alors, nous avons entendu quelques minutes, et puis le médecin, le professeur est arrivé. Et puis, il s'est retourné vers la personne très âgée, hein, en l'appelant Monsieur Legrand, en disant, écoutez, je dois absolument vous voir parce que vous avez de très gros problèmes de dos. Moi, un petit peu gêné, je dis, écoutez, vous vous êtes trompé, Monsieur Legrand, c'est moi. En pensant, évidemment, que les problèmes, c'était pour, évidemment, mon voisin. Et quand il a appris que c'était moi, Monsieur Legrand, il m'a dit, écoutez, je dois vous voir d'abord. Et puis, il m'a reçu et il m'a dit, vous avez de problèmes terribles au dos, double hernie discale, tassement des cervicales, tassement du bas du dos, je crois qu'il faudra envisager une opération pour vos problèmes d'hernie discale. Il est vrai que si j'avais dû passer cet examen, c'est que quelques mois avant, je souffrais tellement que quand je sortais du lit, je devais me traîner par terre à ce point-là, tellement je souffrais. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, le virus qu'on m'avait transmis mon oncle, que je me suis dit, mais mon Dieu, je lis Van Isbeth depuis des années, c'est un homme passionnant, si je lui téléphonais. J'ai eu cette idée de lui téléphoner. Et André Van Isbeth, quand je lui ai parlé d'opération, il m'a dit, écoute, prends une aiguille et tu l'enfonces dans ta cheville. Si tu ne sens rien, alors un conseil, il faut te faire opérer rapidement parce que tu risques sinon une demi-paralysie, c'est dangereux. Et heureusement, quand j'ai enfoncé l'aiguille, je l'ai senti. Et à ce moment-là, André Manuel m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, écoutez, je plaide un peu tous les jours. Bon, il me dit, essaye un peu de prendre un petit congé. Je donne un stage à Colbato. Colbato, c'était dans les grandes montagnes pas loin de Barcelone. Essaye d'y venir, on va traiter ton problème. Et j'ai remis mes affaires pendant 15 jours à un confrère qui était très content, d'ailleurs un tout jeune. Et puis je suis parti avec ma voiture et j'étais jusqu'à Barcelone. Je me suis arrêté, repéré à Perpignan. Et puis là-bas, j'ai vu pour la première fois Van Isbeth, encore un peu plus petit que moi. Je ne suis pas grand, mais il est encore un peu plus petit que moi. Et ça a été vraiment, je dirais, extraordinaire. Des yeux pétillants, une intelligence incroyable, un instinct, vraiment, cet homme avait un instinct, il était passionné par la télépathie, et j'ai suivi son stage pendant environ 15 jours. Problème de dos était résolu à moitié, donc j'avais plus vraiment mal, puis j'avais fait le voyage, mais c'était dans des très difficiles pour faire ce voyage jusqu'à l'Espagne, et puis... Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais pris aucun médicament. Plus jamais pris aucun médicament. Et alors, j'ai suivi les stages de Van Isbeth. Donc, les années s'étant... Attendez, je regarde un tout petit peu. En 1997, mon premier stage. Et après la deuxième année, donc j'ai fait un second stage l'année suivante. Et c'est là que Van Isbeth m'a proposé de suivre son enseignement et de devenir professeur. Et je me rappellerai, je lui ai toujours dit, mais vous êtes... C'est pas possible. Avec le dos que j'ai, je suis raide, épouvantablement raide. C'est pas possible. Et puis Van Isbeth me dit, écoute, aie confiance. Moi, quand j'étais en Inde et que j'ai rencontré Swami Sivananda, il m'a demandé de revenir en Belgique et de rédiger une petite revue. Et je lui ai répondu à ce moment-là, mais c'est pas possible, je ne connais pas suffisamment tout le yoga pour pouvoir rédiger cette brochure. Et le grand sage Swami Sivananda lui a répondu, écoute, nous avons ce qu'on appelle la télépathie. Hein, en pensée, tu verras que chaque fois que tu rédigeras tes brochures, les idées vont te venir. Je serai là quand l'élève est prêt, le professeur arrive. Et c'est incroyable, André Van Isbeth le révèle d'ailleurs dans ses brochures. C'est qu'il a, pendant, je vous l'imaginez, depuis l'année que j'ai dit tout à l'heure, 1963, jusqu'à l'année précédente son décès, eh bien, il a continué à rédiger sa revue. Et alors, j'ai accepté sa proposition de devenir professeur, et en 2002, au mois d'août, j'étais en Égypte quand j'ai appris, évidemment, que j'avais réussi les examens, et donc j'avais le diplôme de professeur de yoga. Mais ce n'est pas fini, c'est que au dernier stage que j'ai eu avec André Van Isbeth, c'est-à-dire en 2003, puisqu'il est mort en 2004, j'avais rencontré sur place un professeur de yoga, un Suisse, qui était pilote d'aviation et qui faisait beaucoup de parachutisme. Et il a eu un accident, c'est que son parachute s'est ouvert un peu trop tard et il a fait une chute assez forte dans les 30 derniers mètres ou 20 derniers mètres. Enfin, résultat, il avait un gros problème, c'est que tous les noyaux des disques intervertébraux étaient complètement déchirés. Et ce monsieur, quand il devait s'incliner vers l'avant ou vers l'arrière, c'était épouvantable, il souffrait très fort. Et il m'a dit, j'ai eu d'abord Van Isbeth, Van Isbeth qui m'a d'abord fortement aidé. Et puis j'ai rencontré par hasard Khan Babacar. Et il m'a dit, avec tes problèmes de dos qui sont déjà à moitié résolus, fais comme moi, eh bien, tu essayes de rencontrer Babacar. Et dès que je suis revenu en Belgique, j'ai contacté Babacar, mais ça, on en parlera dans quelques instants. Vous m'avez dit les relations privilégiées que j'avais avec André Vanhisbaeht, c'est vrai. C'est que lorsque j'ai commencé mon enseignement de yoga, Vanhisbaeht était installé donc d'abord du côté de Perpignan, et puis après il est allé du côté de Nice, dans la Côte d'Azur. Et j'avais la chance de pouvoir, en dehors des stages où je le rencontrais, m'entretenir avec lui par téléphone, peut-être une ou deux fois par semaine, pendant les trois dernières années de sa vie. Ça a été absolument extraordinaire. J'ai encore plein d'emails de lui, et j'en parlerai tout à l'heure. Peut-être une prémonition, c'est qu'un an ou quelques mois avant sa mort, il m'avait envoyé un email que je garde et qui est un souvenir extraordinaire. Baudouin, en tout état de cause, on se retrouvera un jour dans la grande mémoire akashique. Alors je reviendrai pour vous dire que j'ai eu la chance, évidemment, de pouvoir non seulement connaître André Vanhisbaeht, une simplicité extraordinaire, un autodidacte, un personnage, c'est mon père spirituel, je peux le dire, incontestablement, et j'étais en Égypte quand j'ai appris son décès. Et j'ai même pleuré, je me rappellerai, j'ai pleuré parce que il avait joué un rôle tellement important pour moi. Mais la chance que j'ai eue, c'est que, je ne pouvais pas savoir évidemment qu'il allait décéder l'année suivante, c'est que j'avais rencontré ce professeur qui m'avait conseillé de rencontrer Babacar. Maintenant j'en arrive à Babacar, et quand j'ai quitté le dernier stage où j'ai encore pu m'entretenir et voir André Vanhisbaeht, j'ai téléphoné au secrétariat de la Ligue de yoga international de Babacar, et j'ai participé à un premier stage de Babacar l'année suivante, donc ça doit être en 2003. Et je me rappellerai, là, alors que Vanhisbaeht était tout petit, Babacar, vous le voyez, c'est un énorme, très grand, très très solennel, et Babacar, je lui expliquais que j'enseignais déjà le yoga que m'avait initié Vanhisbaeht, et il m'a proposé, il m'a dit, mais pourquoi tu ne suis pas mon enseignement, c'est un complément pour toi, et moi j'ai accepté de suite évidemment, et alors j'ai suivi pendant, normalement on doit suivre 4 années, et après 2 ans et demi, même pas 3 ans, j'ai pu aussi avoir le diplôme donc décerné par Babacar. Et c'est alors, on va en parler probablement, que a eu la grande chance que j'ai eue, c'est de pouvoir, disons, donner des cours pendant plus de 12, maintenant c'est la 14e année en Égypte et également au Maroc. Donc voilà un petit peu les rapports que j'ai pu avoir avec André Vanhisbaeht, surtout les 4 dernières années de sa vie. Ça, c'était pour moi des moments que je n'oublierai jamais. Et on avait donc, parfois, il m'écrivait, et c'était même amusant, c'est que parfois, dans ses revues, dans les dernières années de sa vie, il était très intéressé par la diététique. Et je me rappelle qu'il m'écrivait, il me dit, je vais déjà t'envoyer ce que je vais écrire dans la prochaine revue. J'étais en avance par rapport aux autres. Je pouvais déjà lire, évidemment, ce qu'il allait rédiger dans la revue suivante. Donc, de Vanhisbaeht, je peux dire que je lui dois beaucoup. Je lui dois surtout une seconde partie de vie qui est beaucoup plus exaltante que le métier que j'ai exercé, j'en regrette pas, pendant près de 30 ans. Alors voilà un petit peu la rencontre avec
Et vous avez bien mentionné un mot clé qui pour moi revêt beaucoup d'énergie, de écoutez, j'en ai des frissons partout, Baudouin, merci beaucoup. Ce mot, c'est l'exalte. Hein. Vraiment, on ressent, même si on ne s'est jamais rencontré, votre enthousiasme. Et je vous remercie beaucoup d'avoir décrit comme ça ce lien privilégié que vous avez entretenu avec André Vanhisbaeht, un pilier. Monsieur Lisbeth venait régulièrement au Québec. Il voyageait au Canada pour enseigner. Il voyageait un peu partout dans le monde. Et je m'en voudrais de vous demander, Monsieur Legrand, Baudouin, les ouvrages, la revue Yoga de Vanhisbaeht, vous devez en avoir gardé quelques exemplaires.
Ah oui, fantastique. C'est une bonne question. Eh bien, je vous dirais que sur les... Attendez, je regarde la dernière brochure que j'ai. C'est la numéro, je vais vous lire de suite. La 322. Donc, sur les 322 ou 25, parce qu'après le décès d'André Van Lisbeth, sa belle-fille, qui était professeure de yoga également, a continué la brochure pendant encore peut-être 2-3 ans. Et puis, je n'ai plus été abonné parce que ce n'était évidemment pas André. Donc, pratiquement, Van Lisbeth a écrit plus de 300 brochures et j'en ai pratiquement encore plus de 280. Donc ma bibliothèque où je suis dans mon bureau maintenant pour vous parler, eh bien j'ai 200-300 livres de yoga, un peu sur le Qigong également, et surtout évidemment les fameuses brochures de yoga. C'est une véritable encyclopédie sur le yoga. Je crois que personne n'a écrit autant sur tous les sujets, n'importe quel sujet, sur le yoga qu'André Van Lisbeth. Et je me rappelle un jour qu'en Égypte, j'ai rencontré, ça m'est arrivé souvent, des médecins, des chirurgiens, et il disait toujours, quand on parlait de Van Lisbeth, parce qu'il était très connu en Belgique, on l'appelait le Hergé du yoga. Hergé, Hergé qui était un homme extraordinaire également, aussi un autodidacte. C'était aussi, on appelle ça des petits génies. Et ce médecin disait toujours que alors que Van Lisbeth n'avait pas de formation, donc n'avait pas suivi d'année de médecine, rien du tout, eh bien, c'est absolument extraordinaire le bon sens et les sujets qu'il abordait. Et ce médecin me dit toujours, pour nous, c'est un plaisir, c'est un régal de lire ces brochures. Alors vous imaginez quel bonheur j'ai. Chaque fois qu'il y a un petit problème, et ça, ça a été dans mes leçons que je pratique tous les jours, chaque fois que j'ai un petit problème, les gens me disent, bon, j'ai un problème, ah, c'est un problème du cou, un problème du genou, un problème de la hanche, j'en parlerai, c'est un petit peu la spécialité que je fais maintenant. Eh bien, j'allais vite aller chercher les brochures et il y avait un petit livre où il résumait absolument tout, une espèce, si vous voulez, de memento de toutes ces revues. Et automatiquement, j'allais puiser le sujet qui m'intéressait. Et ça, je dois dire que cette bibliothèque, ces brochures de Van Lisbeth, c'est pour moi une valeur inestimable sur le moral, inestimable, parce qu'on y trouve tout ce que l'on veut, et toujours avec un bon sens et une simplicité extraordinaire. Et puis, Van Lisbeth n'était pas un homme d'argent. Il n'a jamais accepté aucune publicité dans ses petites brochures. Je me rappellerai toujours qu'un jour, il y avait des personnes qui n'étaient pas très riches et tout, et qui voulaient participer à ces stages. Et il avait dit, surtout n'en parlez pas à ma femme, vous venez au stage, oh, je vous inscris et vous suivez mes cours. Et ça c'était du Van Lisbeth tout craché.
Et voilà. Tout. Et vous avez partagé avec nous Baudouin Legrand. D'ailleurs, votre nom a été finalement corrigé sur Yoga Partout. Effectivement, oui. Sur Yoga Partout, on vous trouve en écrivant Baudouin Legrand. Tout en un mot, il n'y a pas d'espace. Et sur votre page, donc, vous avez partagé avec nous des photos quand même d'une rareté. On vous voit enseigner en Égypte, on vous voit dans des classes. Nous nous sommes permis de calculer les distances que vous partagez. Que vous parcourez pour faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas le yoga une carte qui indique la distance entre l'Égypte et le Maroc et ainsi de suite et on voit le diplôme, la certification signée de Denise, de la signature de Denise et André Van Lisbeth lorsque vous avez reçu votre attestation professorale d'André Van Lisbeth en 2002. On voit aussi des photos d'une rare photo de Van Lisbeth et vous-même. Bref, et naturellement, Babacar. Donc, vous avez aussi, vous nous avez parlé de Babacar Kane, ce yogi qui enseigne le yoga égyptien, le yoga chinois, le yoga kung-fu. Vraiment, cet homme aussi a fait rayonner le yoga partout dans le monde, dans 7-8 pays, sur tous les continents. Baudouin Legrand, Je ne vous demanderai surtout pas de comparer les deux hommes parce que en yoga, on ne compare pas, premièrement.
Non, je peux
Par
quand même en
contre,
dire
j'aimerais bien que vous
très
nous
léger, vous allez
parliez.
voir, parce que
Oui?
j'apprécie tellement Babacar également, c'est que Babacar, c'est aussi, je dirais, un autodidacte, c'est un poète, c'est un grand poète, Babacar. Et c'est un homme qui est très spirituel, extraordinaire, j'ai rarement vu ça. Et c'est peut-être sur le plan, je dirais, thérapeutique, le meilleur professeur que j'ai eu. Van Lisbeth était un érudit. Non seulement il pratiquait le yoga, il l'enseignait, mais il était un peu de la trempe de Jean Herbert. C'était quelqu'un qui était passionné par l'étude du yoga. Tandis que Babacar est un homme beaucoup plus sur le terrain. Sur le terrain. Et je dois dire que, comme thérapeute, Babacar est probablement un des meilleurs professeurs, peut-être un des. Pour moi, le meilleur actuel qu'il y a actuellement. Parce que il suffit de suivre les cours de Babacar pour s'en convaincre. C'est incroyable. C'est un homme
Qu'est-ce qui
je dois
différencie
dire,
son
tient compte de
yoga,
chaque
je m'excuse
morphologie et d'une prudence extraordinaire, d'une disponibilité fantastique, quand on pense à tous les stages qu'il fait sur une année. Donc, quand je les compare, je compare Babacar, c'est un grand poète et un très, très grand praticien, je dirais, thérapeutique du yoga. Et Van Lisbeth, lui, ça a été surtout d'avoir fait découvrir un des grands pionniers du yoga. Il était plus instinctif. Van Lisbeth était un homme spontané, direct, qui était tout à fait différent. Mais j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'ils se complètent parfaitement. Si j'étais les deux mêmes, c'est pas la même chose. J'ai eu le bonheur de connaître quelqu'un qui est instinctif, qui sent le yoga. C'est extraordinaire, Van Lisbeth. Et puis alors, quelqu'un qui, à force de travail, est arrivé à comprendre le problème des autres et à les soigner. Et ça, c'est Babacar, tout craché, et qui est un grand poète. Un très grand poète. Ça, c'est une qualité. Et quand on est poète, ça dit beaucoup de choses sur les qualités de cœur aussi. Et je tenais à le dire également. Donc, ce n'est pas une comparaison dans le sens que l'un est plus fort que l'autre. Ils sont différents et c'est ça, justement, qui permet de les admirer tous les deux.
Et est-ce qu'on pourrait dire Baudouin Legrand, enseignant de yoga? Yoga thérapeutique. Vous avez parlé un peu de votre mal de dos. Qu'est-ce qui vous a amené au yoga et quels sont les bienfaits que cela procure?
Ah,
Est-ce qu'on
ça
pourrait
c'est une bonne
dire,
question. Mais
Baudouin
d'abord,
Legrand, est-ce qu'on
oui,
pourrait
pour
dire,
répondre, ah oui, je ne sais pas,
ma
peut-être que vous
question est la
deviez encore dire
suivante.
quelque chose avant que j'explique ce
Oui?
problème. Non?
Oui?
Je peux le dire maintenant déjà?
Oui, allez-y,
Oui,
allez-y.
en fait, il faut savoir que pour régler le problème de dos, d'abord j'avais l'enseignement d'André Van Lisbeth, qui est le premier qui m'a soigné littéralement et qui m'a déjà épargné les souffrances que j'avais. Et puis Babacar, mais c'est surtout aussi la chance, comment je suis arrivé en Égypte, parce que j'avais mon diplôme, mais pour enseigner en Belgique et éventuellement en France, mais comment suis-je arrivé en Égypte? Et ça vaut la peine de le raconter. En fait, en 1900, attendez, je reprends bien, c'était en 2000, 2004, oui, à peu près ça, 2003-2004, je passais des vacances avec ma femme au bord de la mer Rouge, à El Gouna. Et évidemment, j'étais déjà diplômé donc du yoga indien de Van Lisbeth, et je pratiquais, je rappellerai toujours, à côté des lagunes, il y a plein de lagunes à El Gouna, je pratiquais mon yoga. Et puis un jour, il y a le directeur de cet hôtel, qui était un Belge, qui passe et qui m'interpelle, pas au moment même, mais le soir, il m'interpelle, il dit, mais monsieur, vous pratiquez, vous singez les pharaons, qu'est-ce que c'est ça? C'est un yoga très particulier. Et bien, je lui dis, ben oui, vous savez, je ne fais que faire les exercices que un grand maître de yoga, Babacar Khan, m'a appris. Et alors, ce directeur d'hôtel m'a dit, mais écoutez, ça nous intéresse, nous avons toujours énormément de gens en hiver, est-ce que vous pourriez éventuellement donner des cours et venir, évidemment, les mois que vous proposez? Et je lui dis, écoutez, je peux évidemment donner des cours de yoga indien, puisque j'ai le diplôme pour le yoga indien, pour le Hatha yoga, on en reparlera après, parce que j'ai beaucoup d'importance au mot yoga et Hatha yoga. Mais je lui ai dit, il faudrait que je demande l'autorisation de Babacar, parce que en fait, il y a 3 ou 4 années d'études, j'en suis à la deuxième, et bon, il faut lui demander si je peux éventuellement donner des cours de yoga égyptien. Et alors, j'ai envoyé un email à Babacar Khan, et il m'a répondu, mais très gentiment, le lendemain, que j'étais autorisé de donner en son nom, avec son école, les cours de yoga égyptien. Et c'est comme ça que depuis, c'est la 16e année, donc je retourne en novembre de cette année-ci, pour la 16e année successive que je vais donner des cours en Égypte. Et c'est important parce que là-bas, pourquoi croyez-vous que les gens viennent aux cours de yoga ? Pour une question de philosophie, non, ça ne les intéresse pas. C'est que les gens viennent pour résoudre leurs problèmes de santé. En réalité, vous savez que le mal du siècle, c'est le mal du dos et le stress. Et tous les gens se sentent mal dans leur peau. Et quand ils sont en vacances, ben ils se disent, mon Dieu, je vois qu'on donne des leçons de yoga. Si on allait voir un peu ce que c'est pour voir si éventuellement le yoga peut nous apporter quelque chose. Et je prends la durée d'un mois, puisque je donne, en général, quand je vais en Égypte, je vais à 2 périodes. En novembre et en janvier, pour une durée d'un mois, ben je donne des cours environ à 250-300 personnes sur à raison d'une heure et demie par jour. Et là, je rencontre évidemment des gens qui m'exposent leurs problèmes. Certains, c'est le cou, surtout problèmes aussi de genoux, de hanches et tout. Et comme moi, j'ai eu tous ces problèmes de santé, évidemment, je les comprenais très bien. Et depuis, évidemment, que j'avais obtenu mon diplôme et que j'enseignais, évidemment, j'écoutais mon corps, qui est capital dans l'univers. Écouter son corps. Suivre, évidemment, les instructions que l'on a apprises, ça ne suffit pas, mais c'est écouter son corps. Et quand on écoute son corps et qu'on se base sur les inspirations, sur ce que nous a appris les maîtres qui nous ont enseigné le yoga, eh bien, à ce moment-là, on arrive à chercher des solutions. Et c'est comme ça que, finalement, à force de rencontrer des gens qui m'exposaient à leurs problèmes, eh bien, je trouvais une solution. Je rappellerai toujours qu'à El Gouna, un jour, ça vaut pas la peine de le dire, c'est que le directeur de l'hôtel vient me trouver et me dit, écoute, il y a un gros problème, il y a une jeune fille de 16 ans qui fait du basket, elle ne sait plus se redresser, elle a un mal épouvantable. Il me dit, il faut absolument que tu la soignes. Je rappelle que je lui ai répondu, je suis pas médecin, mais je vais quand même la voir. Et puis, finalement, quand je l'ai vue, je lui ai fait pratiquer une dizaine de torsions, sans évidemment savoir à l'avance, parce que je ne suis pas médecin, quelle était la torsion qui était idéale pour elle, et le lendemain, elle rejouait au basket. Alors, évidemment, depuis, non seulement je donne des cours, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un petit problème de santé, sur le plan de dos, n'importe quoi, bien, on vient me trouver et je suis accessible, c'est-à-dire que pendant le mois, je donne mes cours et je suis disponible pour les gens. S'ils ont un problème, je suis là pour eux. Je vous ai dit, Validbet m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ce que je t'ai transmis, tu dois le transmettre aux autres et pas le garder pour toi. Et c'est un peu une sorte de vocation que j'ai pour l'instant. Ça ne m'enrichit pas du tout, hein, parce que au loin là, non. Mais ce n'est pas grave. C'est surtout le bonheur de pouvoir, disons, rendre service aux autres et épargner et surtout de diminuer leur souffrance. J'ai fort souffert du dos, terriblement souffert. Une double hernie discale, ça peut faire très 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 mal. Et alors là, j'expliquerai un petit peu comment je conçois mes cours, parce que je suis arrivé finalement à des techniques un petit peu personnelles, parce que c'est très bien de suivre l'enseignement d'un maître, mais je crois qu'il faut arriver à un moment donné à pouvoir apporter quelque chose de soi aussi. Parce que si c'est pour être uniquement la copie de ce qu'on a appris, ça ne suffit pas. Il faut apporter quelque chose de plus personnel. Et je crois que depuis déjà 15 ans, j'ai pu avoir une certaine expérience. Et malgré mon dos qui était épouvantable il y a à peu près maintenant près de 20 ans, j'ai subi un IRM, c'était la semaine dernière, et le professeur m'a dit, ben, vous pouvez à votre âge être content d'avoir le dos que vous avez. Vous avez toujours une hernie discale. Quand j'ai une hernie discale, je vous dirai de suite, avec quelques mouvements, deux, trois mouvements, je garantis que la souffrance, au moins pendant 3-4 semaines, eh bien, vous ne la sentirez plus. Ça reviendra, évidemment, mais on recommencera la posture, posture qui m'avait été montrée par un moine de Maretsu d'un couvent. Il m'avait expliqué une posture qu'il avait lui-même appris d'André Van Isbeth, pour vous dire comme ça va loin. Alors finalement, je pratique un petit peu. En fait, je donne aux autres les mêmes cours que je pratique tous les jours. Je dis bien tous les jours, je pratique une heure de yoga, mais je commence toujours ma leçon par le Qigong, parce que je n'ai pas expliqué pourquoi j'avais également décidé de pratiquer le Qigong. Parce que le Qigong,
d'accord.
Si on regarde
d'accord.
Un petit peu ce que
Baudouin,
c'est...
Baudouin.
Oui, oui.
Oui, merci beaucoup. Non, je sais qu'on pourrait continuer à vous écouter parce que de toute façon, nous allons y arriver au Qigong. Simplement pour résumer l'influence de Babacar, puisque ma question était... le point commun qui relierait les enseignements de Babacar Kane et de André Van Lisbeth, pouvez-vous dire que ce sont deux hommes, deux yogis, deux maîtres en yoga qui vous ont enseigné la liberté? Et on entend souvent que le maître souhaite que les élèves dépassent le maître. Donc,
tout à fait.
Pouvez-vous nous parler justement de cette pensée qui vous a amené au Qigong?
Et Babacar, ce sont des véritables, je dirais, yoga thérapeutiques qu'ils enseignent. Vous verrez, quand si vous suivez un cours de Babacar, il ne parle pas beaucoup de... pas tellement d'histoire, mais il enseigne vraiment un yoga thérapeutique qui est vraiment, je dirais, et quand il nous donne un cours, il nous dit toujours, écoutez ce que je vous ai dit, mais avant de pratiquer l'exercice comme je vous l'ai dit, vous écoutez votre corps. La première chose, c'est le filtre. Vous avez le maître et vous avez le filtre, puis vous avez vous. Et le maître ne peut pas connaître votre corps. Et ce que j'appréciais chez Van Isbeth et chez Babacar, c'est que ce que tout le monde ne fait pas, c'est que quand il donne un exercice, d'abord il commence par la respiration, parce qu'on ne peut pas pratiquer le yoga sans d'abord à réapprendre à respirer, c'est qu'il nous dit toujours, évidemment, les variantes, parce que bon, si quelqu'un est un peu cambré, eh bien telle posture ne conviendra pas, ça il faut le sentir, il faut le voir, et à ce moment-là il va nous conseiller une variante. Et il nous a toujours enseigné, non seulement quand vous enseignerez, vous inspirez de ce que je vous ai appris, mais vous devez apporter votre approche personnelle. L'approche personnelle, ben, je vous dirais tout simplement, c'est d'écouter les autres. On ne peut pas, proposer, je dirais, un asana à un adepte qui vient à vos cours si on ne connaît pas un petit peu son aventure. Il faut le laisser parler, il faut le laisser expliquer ce qu'il ressent. Et à ce moment-là, je sens moi-même, puisque j'ai souffert comme lui, exactement l'asana qu'il lui faut. Et c'est pourquoi je dois dire que dans le yoga que je pratique, c'est plutôt aussi dans la lignée de faire un yoga purement thérapeutique. Et quand je dis thérapeutique, c'est à la fois du corps et de l'esprit, hein, parce qu'on en parlera tout à l'heure, c'est la différence entre le yoga et le hatha yoga. Il y a beaucoup de choses qu'on parle du hatha yoga et du yoga qui ne sont pas exactes, parce qu'on parle toujours de yoga royal, je viendrai, mais pour moi le yoga royal de Patanjali n'a rien à voir avec le hatha yoga qui est d'origine dravidienne, et on peut peut-être en dire un petit mot parce que ça me tient fort à cœur, qui est tout à fait différent et qui arrive au même résultat, mais d'une autre façon.
D'accord. D'accord, bien allez-y. Comment vous, l'importance des mots, hatha et yoga ensemble.
Lorsqu'on a un enseignement, on a la chance d'avoir l'enseignement de grands maîtres, eh bien, il faut évidemment s'inspirer durant sa vie de ce qu'il nous a appris, mais il faut dépasser, comme nous l'a dit André Van Isbeth, il faut dépasser cet enseignement et arriver à, par notre propre expérience, mais notre propre expérience, c'est celle des autres. C'est en écoutant les autres qu'on apprend à modifié. Si vous voyez les postures que je pratiquais, que je conseillais il y a 4 ans et celles de maintenant, eh bien, il y a une évolution. Alors, j'en arrive, oui, au yoga, au Hatha yoga. Très souvent, on me demande, mais qu'est-ce que c'est le yoga ? Eh bien, pour comprendre le yoga, la signification du mot yoga, étymologiquement, ça veut dire unir, relier. C'est tout, unir, relier. Si on ne l'associe pas au Hatha yoga, on n'a rien compris du tout. Le Hatha yoga, il y a le ha et le ta. Le ha, c'est l'énergie, totale, qui est l'énergie solaire, et le ta, qui est plutôt l'énergie lunaire, plutôt la femme, tout à fait différent. C'est très, très important. Et si on rejoint, on unit le mot Hatha yoga, eh bien, le yoga, pour moi, n'est pas une discipline, c'est un état. Comme disait Jean Herbert, lorsque on veut pratiquer le yoga, eh bien, progressivement, on entre dans un état de quoi ? On essaie d'arriver, enfin, c'est d'accéder à un état d'harmonie du corps et de l'esprit. Le yoga, c'est un état d'harmonie merveilleux entre les deux. Et pour y arriver, eh bien, pour y arriver, nous avons le Hatha yoga qui, lui, va justement s'occuper de nous faire capter l'énergie, cette énergie extraordinaire, le prana ou le chi pour les Chinois, on en dira un mot après, et de canaliser cette énergie, de la faire circuler dans le corps. Et alors, pour moi, le Hatha yoga est une discipline qui permet, par différentes techniques telles que le pranayama, la respiration, par la technique, l'asana, par également la diététique, par la méditation également, et par encore d'autres techniques, la purification, qui permet justement d'arriver à cet état de yoga qui est le but recherché dans le yoga. Mais ici, je voudrais insister la différence entre le mot yoga. Le mot yoga, il n'était pas connu du temps des Dravidiens, puisque le Hatha yoga, 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, dans la vallée de l'Indus, qui maintenant n'existe plus, eh bien, on a retrouvé le sceau, donc, d'un, je ne sais plus de quel dieu, mais qui était dans une position, évidemment, assise de yoga. Donc, incontestablement, les Dravidiens pratiquaient un yoga. Il n'y avait pas d'ashram, c'était pas dans l'esprit des tantriques, le Hatha yoga est tantrique comme les Dravidiens l'étaient. Et la grande différence entre, parce que le yoga, c'est une notion qu'on retrouve pour la première fois dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est là qu'on parle des Yoga Sutras, alors qu'avant on n'en parlait pas, on parlait que du Hatha yoga. Mais la grande différence, c'est que chez les Dravidiens qui pratiquaient, je dirais un yoga tantrique, moi je dis tantrique existentiel, vraiment si on devait dire un mot, ce qui est ici est ailleurs, ce qui n'est pas ici est nulle part, principe du tantrisme. Eh bien, le système de vie chez les Dravidiens, c'était le matriarcat, le dieu du yoga Shiva et sa femme Shakti l'énergie et Shiva la conscience. Et puis, quand les Aryens sont arrivés, c'est-à-dire vers 2000 ans avant Jésus-Christ, ils étaient malins. Ils avaient leurs croyances, ils avaient leurs rituels beaucoup plus austères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas rejeté le Hatha yoga, mais ils l'ont, je dirais, spiritualisé, ils l'ont rendu beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus exigeant. Et la meilleure preuve, c'est que si vous regardez dans les 8 membres du
Ashtanga
Patanjali, eh bien, vous revoyez quoi ? Vous voyez uniquement la respiration, le pranayama, mais le pranayama, il ne donne aucune explication des techniques de respiration, alors que chez les Dravidiens, on a plein de techniques, il suffit de lire le bouquin de Van Lisbeth ou d'Iyengar et on verra ces pratiques extraordinaires que n'a jamais enseigné l'école de Patanjali. C'est pas tout. Comme exercice de Hatha yoga, quel était l'exercice qui était repris par Patanjali ? Uniquement l'asana, c'est-à-dire comment il faut s'asseoir, exactement le confort, la position qu'il faut faire pour faire une bonne méditation. C'est tout ce qui retient du Hatha yoga. C'est quand même un peu court. Et la meilleure preuve qu'il y a une différence absolument extraordinaire, c'est que vous avez un grand maître Vikenanda, Je savais comment Vivekananda, il parlait des Hatha Yogis, il disait ce sont des animaux intelligents qui vivent longtemps. C'était la description. Or, il faut savoir que Vivekananda est mort, il n'avait même pas 40 ans. Il y avait d'autres grands maîtres aussi qui pratiquaient le yoga tellement... Eux, ils ne voyaient que le côté plutôt, je dirais, de l'esprit spirituel et pas tellement le côté physique, alors qu'il faut associer les deux. Et Vivekananda, un peu avant de mourir, c'est repris d'ailleurs dans les brochures de Malisbeth, il aurait déclaré à ses disciples, « Surtout ne faites pas comme moi, pratiquez le Hatha Yoga. Si je l'avais pratiqué un peu plus, j'aurais pu probablement vivre plus longtemps et apporter peut-être une pierre supplémentaire à ce que j'ai apporté aux autres. » Ça, c'est très, très important. Donc, vous voyez déjà, et alors, au système du matriarcat, qui était extraordinaire, parce qu'il n'y avait pas de guerre, c'était un système qui était beaucoup plus bénéfique pour les Dravidiens, eh bien, les Aryens, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les castes, les Brahmanes. Et alors là, je vous dirais, André Vanisbeth, il faut lire dans ses brochures ce qu'il pense de... ce qu'il pense, évidemment, des Aryens. Certes, il respecte, il parle beaucoup, il demande l'importance de Patanjali, c'est très, très important, mais il dit toujours... N'oublions pas que le véritable yoga, c'est le Hatha Yoga qui est un yoga intégral. Parce que dans le yoga intégral, on nous parle de yama, de nayama, etc. pour Patanjali. Mais pour pratiquer le Hatha Yoga tantrique, ben, il fallait aussi ces qualités d'âme. Il ne fallait pas voler, il fallait pas... Toutes les qualités sont reprises. On ne peut pas arriver à un état, je dirais, de samadhi, un état de supraconscience, si non seulement on ne maîtrise pas le corps, mais si on ne maîtrise pas également l'esprit. Et si on maîtrise l'esprit, ça veut dire qu'il faut avoir, je dirais, un équilibre dans tout. Ça, je voulais faire la grande différence, parce que pour moi, c'est capital. D'ailleurs, en Europe, qu'est-ce qu'on pratique? On ne pratique que du Hatha Yoga. Pourquoi? Parce qu'il est global, il est intégral, il reprend tout. Les gens l'oublient. Si le yoga était celui de Patanjali, eh bien, pour être sûr que le yoga n'aurait pas l'essor qu'il a maintenant. Je suis persuadé que c'est grâce au Hatha Yoga primitif, d'ailleurs on y revient, qui n'inclut pas évidemment la méditation, joue un rôle capital à la fois chez les tantriques et surtout chez les Hatha Yogis dravidiens, comme évidemment par après chez les Aryens. La méditation joue un rôle extraordinaire, mais tous les deux pouvaient arriver à son état de yoga qui était l'état de samadhi. Pour les Aryens, ben, c'était par la méditation, surtout par le côté, l'élément, je dirais, de l'esprit, l'élément mental, alors que chez les Dravidiens, dans le Hatha Yoga, si vous regardez, vous avez les purifications, vous avez les respirations, vous avez la concentration, les différentes phases qui ont été d'ailleurs reprises par Patanjali, Dhyara, Dhyana, etc., pour arriver à l'état de Samadhi. Donc, dire toujours que lorsque nous pratiquons le yoga, qu'on ne parle pas toujours de yoga royal, parce que pour moi, le yoga royal, c'est le yoga primitif. C'est tellement vrai que si j'étais attiré par le Qigong, c'est que le Qigong, si vous regardez un petit peu, c'est exactement un yoga d'énergie, un yoga tantrique. Il y a des similitudes extraordinaires entre le Qigong et le Hatha Yoga. Et c'est pour ça que j'ai été attiré par le Qigong, parce que je trouve qu'il y a également... En fait, le Qigong, ce sont des exercices... des mouvements plutôt dynamiques, alors que dans le yoga, c'est plutôt statique. Par des mouvements et par des respirations, on capte l'énergie, le chi, c'est-à-dire le yang et le yin, et on le capte dans le corps, et puis à partir, disons, du tan tien, on doit le faire écouler à travers les deux vaisseaux principaux, le vaisseau conception, on doit faire circuler. Et dans le yoga, donc l'Hatha Yoga, c'est la même chose. Le but du Hatha Yoga, c'est Hatha Yoga, union des énergies positives, négatives, masculines, féminines, enfin toutes ces énergies, hein, on doit les faire circuler dans le corps. Et c'est pour ça finalement que je dis, pour moi le yoga royal, c'est le Hatha Yoga. Pourquoi? Parce que on retrouve la même chose dans le Qigong. Et alors une chose qui m'avait aussi fort étonné, pourquoi j'ai voulu faire également le Qigong, c'est qu'on peut être étonné que 4000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, en Inde, qui est le berceau évidemment du yoga, en Égypte et en Chine, après l'empereur jaune, on a trois disciplines qui sont très proches, qui ont le même but. C'est pour ça que Babacar, avec beaucoup de justesse, parle de yoga chinois, de yoga égyptien et de yoga indien. Évidemment, c'est le yoga indien, c'est le berceau de tout. Mais il ne faut pas oublier que quand même, les gens se demandent, mais comment peut-on avoir un yoga égyptien et un yoga chinois à peu près en même temps? Eh bien, tout simplement, c'est du bon sens, c'est qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque. Les communications se faisaient par bateau, on amenait de la marchandise, et puis quand les marchands arrivaient évidemment en Égypte et en Chine, eh bien, ils montraient un petit peu les disciplines qu'ils pratiquaient. Et les gens me rappellent que quand j'étais en Égypte, on m'avait signalé, mais est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas une invention de Babacar, ce yoga égyptien? Mais je dis non, il suffit d'aller dans la vallée de Luxor, et allez voir dans la vallée de Luxor, vous voyez là-bas près des tombeaux, tous des dessins qui représentent les grandes postures du yoga indien, avec la petite spécification, c'est que toutes les postures que pratiquaient les Égyptiens étaient plutôt de verticalité. Verticalité, ben on voit les pyramides, le sphinx, etc. Ils étaient obnubilés par la verticalité. Mais ils pratiquaient un yoga. Et en Chine, eh bien avec la civilisation qui est tout à fait différente de celle de l'Inde, eh bien ils ont suivi également, pratiquement, ayant appris les notions aussi du yoga indien, ils l'ont assimilé avec leur mentalité à eux, et ont fait ce Qigong, qui est exactement le même système que le Hatha Yoga. Je prends un exemple, vous avez la salutation du soleil qui est dans le Hatha Yoga, et vous avez dans le Qigong les huit mouvements du brocard, qui sont des mouvements tout à fait différents, sauf que l'un est dynamique, mais en général le yoga est plutôt statique, l'asana dans le yoga est statique, et dans le Qigong, c'est plutôt des mouvements de répétition de mouvements qui s'enchaînent l'un dans l'autre. Voilà, je vous laisse, c'est gentil de m'avoir autorisé à... Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne seront peut-être pas contents de ce que je dis, mais je le pense au fond de moi-même. Van Nisbet le pensait, je le pense également, et j'ai fait des recherches depuis au moins 10 ans sur cela, et je suis absolument persuadé que lorsqu'on parle de yoga royal, on devrait penser plutôt au Hatha Yoga, qui à la fois tient compte du côté spirituel, du côté mental, qui joue un rôle extraordinaire, et également le Qigong. Et c'est pour ça que tantôt, on devrait dire un petit peu le mot après vie. On peut trouver... Je veux dire, qu'est-ce qui se passe après la mort? Eh bien, on a évidemment, nous autres, une réponse pour les chrétiens. Je suis chrétien, je l'avoue, je crois en Dieu, bien que je ne sais pas le prouver, évidemment. Eh bien, dans le yoga tantrique, dans le Hatha Yoga, eh bien, on a justement un chemin qui nous permet de croire à ce que la vie continue après la mort. Et ça, si je peux en dire un mot, c'était le jardin secret d'André Van Nisbet. Si je peux parler des jardins secrets, on en dira un mot, si vous le voulez, si on a le temps de le dire. Je suis un peu bavard, là, je vois que je suis lancé dans mes... Allô, allô. Ah. Allô, allô. Ah, on a été coupé. Ah, attendez. Oh là là. Ouais. C'est bon. Allô, allô.